Fidèle auditeur de Studio Tamani, bonjour ou bonsoir. Selon vos localisations actuelles dans ce studio, il fait exactement 17h. Installez-vous bien, c'est parti pour votre émission humanitaire hebdomadaire Faboudirène. Et ce soir, il sera question de l'alphabétisation des femmes sur les sites des déplacés. Quel est le niveau actuel des femmes déplacées alphabétisées à travers le pays? Comment se passe cette alphabétisation? Quel profit pour les femmes qui en ont bénéficié? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre invité du jour, M. Modibo Diakité, membre de la société civile et également responsable d'ONG. À la présentation, je suis Adama Amadou Haïdara. La mise en onde est assurée par Adjaratou Traoré. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. L'alphabétisation perçue comme une source d'autonomisation pour chaque individu. Et au Mali, le taux d'alphabétisation, selon les statistiques, est actuellement estimé à 66,3% pour les hommes et 78,14% pour les femmes. Malgré ce taux élevé de femmes alphabétisées, certaines restent encore non scolarisées, notamment les femmes déplacées. Toutefois, depuis un certains temps, des organisations non gouvernementales, en partenariat avec les autorités, procèdent à des séries de formations des femmes déplacées à travers le pays. Notre reporter Assetou Kanté s'est intéressé au sujet. Suivant son reportage, un magazine est réalisé avec le concours de nos correspondants locaux.
Depuis la crise de 2012, de nombreuses personnes se sont déplacées, parmi elles des milliers de femmes, afin de leur permettre une meilleure insertion socio-professionnelle. Des organisations non gouvernementales apportent multiples formes d'appui, notamment en alphabétisation. C'est le cas de l'Association de jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, AJICAD. Elle a formé au total 120 femmes déplacées à Mopti et à Sénou, à Bamako. Adisatou Adama Kafa Diallo, responsable du programme Paix et sécurité à l'AJICAD Mali.
L'activité avait pour objectif d'apprendre aux femmes qui n'avaient jamais été à l'école, des femmes déplacées et puis aussi des femmes des communautés vulnérables, à apprendre à lire, écrire, faire des calculs, les former sur les techniques de causerie, renforcer leurs capacités sur le processus de consolidation de la paix, c'est-à-dire la gestion des conflits, la résolution des conflits.
Ces différentes formations ont été une aubaine pour ces apprenantes, estime Adisatou Adama Kafa Diallo. Selon elle, l'association a reçu un retour positif de la part de ces femmes, comme nous le témoigne Binta Boli, une déplacée sur le site des personnes déplacées internes à Djatoula, à Sénou. Grâce à l'alphabétisation, Binta est autonome aujourd'hui, dit-elle.
Avant, je ne faisais pas la différence entre un stylo et un cahier. Je maîtrise les chiffres petit à petit. Si ce n'était pas la formation, avant, je ne fréquentais personne. L'alphabétisation a été très bénéfique pour moi. On nous a appris la savonnerie. Je peux faire mon commerce sans difficulté maintenant.
Sur le site des personnes déplacées à Djatoula, les hommes apprécient ces formations, même s'ils souhaitent en recevoir eux aussi. Le chef de village Bokari Alibari affirme qu'il faut d'autres formations d'alphabétisation pour les femmes déplacées, notamment en santé.
C'était très bénéfique, mais ce dont elles ont le plus besoin, c'est une formation en matière de santé. Tout repose sur la femme. On a de sérieux problèmes d'établissement de santé. La façon dont les femmes apprennent l'alphabétisation, si elles trouvent quelqu'un pour leur apprendre des notions sur la santé, ça allait être bien. Ainsi, avant de parvenir à se rendre dans un centre de santé, elles peuvent s'entraider.
À l'intérieur du pays, dans la région de Ségou, des femmes déplacées ont été alphabétisées. Ces femmes ont désormais le sourire sur les lèvres. Elles savent maintenant lire et écrire. Certaines contrôlent les devoirs à domicile de leurs enfants.
Tu comprends beaucoup de choses. Ça te permet d'aider les enfants à faire les devoirs. Nous avons fait 6 mois de formation. Je ne connaissais pas mon numéro avant. Je peux écrire mon nom et celui des autres à présent. Je peux également enregistrer un numéro de téléphone. Je maîtrise aussi les mathématiques. On peut faire des heures en classe. Nous souhaitons avoir d'autres formations dans le même sens.
Cependant, à Gao, des femmes déplacées espèrent de nouvelles opportunités éducatives. éducative en alphabétisation. Cette dame qui en a bénéficié en Tilit salue l'initiative. Elle souhaite recevoir encore une autre formation pour elle et d'autres femmes.
Ici, sur les sites de Château Extension, on n'a pas bénéficié de formation en alphabétisation. Mais avant que je n'arrive, j'ai bénéficié d'une petite formation en Tilit. Grâce à cela, je parviens à lire et écrire.
Le service du développement social, qui est le trait d'union entre les déplacés et les bonnes volontés, affirme que tout est mis en œuvre pour que chaque femme déplacée puisse bénéficier de cette formation. Salif Kone travaille à la Direction régionale du développement social de Gao.
L'alphabétisation, c'est une activité très très importante, surtout à l'endroit des personnes en situation de déplacement. Ça peut favoriser vraiment la cohésion sociale. En tant que service technique, nous, quand même, pour l'instant, on a des initiatives dans ce sens, mais malheureusement, des activités pareilles n'ont pas véritablement commencé. Sinon, vraiment, ça fait partie de nos prérogatives.
Tiamoro Traoré, de la Direction nationale du développement social et coordinateur de la gestion des sites de déplacés de Bamako et environ, souligne que l'alphabétisation demande des moyens conséquents.
C'est des initiatives de certaines ONG qui organisent des cours d'alphabétisation. Et nous savons aussi qu'il y a des défis parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas pu bénéficier. Ça, c'est le moyen. Parce que pratiquement, c'est les femmes qui font truc pour le ménage. Bon, maintenant, s'il faut retenir les femmes de 8h à midi chaque jour, donc ça nécessite naturellement des coûts.
Notons qu'en plus de certaines déplacées de Gao, d'autres dans le cercle de Yoroso n'ont pas aussi reçu une formation. Elles demandent aux autorités de l'aide afin de subvenir à leurs besoins.
Une réalisation de Assetou Kanté. Nous faisons à présent place à notre invité. Il s'agit de M. Modibo Diakité, comme annoncé dans le sommaire. Il est membre de la société civile et responsable d'ONG. Monsieur Diakité, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir Adama, bonsoir à tous nos éditeurs et auditrices.
Merci beaucoup. Alors, on peut dire qu'il y a déjà eu quelques réponses dans ce magazine que vous venez juste d'écouter, mais on va quand même aller un peu en profondeur. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette idée d'alphabétiser les femmes sur les sites des déplacés, M. Diakité?
En fait, ce qui a motivé d'alphabétiser les femmes sur les sites des déplacés, c'est que nous avons d'abord compris que les femmes qui sont sur ces sites-là sont confrontés à des difficultés économiques. Dans un premier temps, nous leur avons offert des formations techniques liées à la transformation agroalimentaire, la collecterie des déchets, d'autres activités génératrices de revenus, comme la saponification et autres. Donc, après ça, les femmes avaient des difficultés quand même à tenir leur comptabilité. En même temps aussi, s'ils doivent faire des essais, elles doivent faire des achats, il y a des difficultés. Donc pour les amener à lire, à écrire, à faire le calcul, donc nous avons jugé nécessaire de leur former en alphabétisation, dont le contenu était basé sur 4 éléments phares, savoir lire, écrire. En même temps aussi, il y a faire le calcul et avoir des compétences de vie. Les compétences de vie concernent tout ce qui est le développement personnel lié à la gestion des conflits, à la prévention de l'extrémisme violent, à la santé, hygiène, assainissement, environnement, même aussi la prise en charge prénatale des enfants. Et pendant ce processus, au départ, c'était difficile parce que les femmes, beaucoup de femmes n'y croyaient pas non plus aussi, parce que compte tenu de leur engagement et la cherté de la vie, parce que c'est des gens qui vivent du jour au jour et qui vivent aussi des activités qui ne sont pas forcément liées sur leur site. Donc, il y a eu un premier travail, c'était de les former au métier technique, et le second travail, c'était de les renforcer pour qu'ils puissent quand même avoir les compétences de lire, écrire, faire le calcul, avoir des compétences de vie pour pouvoir mieux vivre dans leur nouveau environnement. Parce que le déplacement occasionne des situations où vraiment il y a un problème d'adaptation. Ce problème d'adaptation n'est autre que quand vous changez de place, c'est que le nouveau environnement, il y a des règles, il y a des principes, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc ces conditions souvent jouent beaucoup sur l'intégration, la résilience de ces déplacés. Donc il fallait quand même leur doter des moyens pouvant leur permettre psychologiquement de se préparer à à aborder le nouveau style de vie. Donc c'est pourquoi quand ils apprennent des choses pendant à travers l'alphabétisation, à travers les métiers techniques, cela leur permet non seulement de s'insérer, mais en même temps aussi de mieux connaître les réalités d'où ils sont accueillis et connaître aussi les attitudes de la population locale et comment les aborder.
Comment est-ce que vous procédez? Est-ce qu'il y a des critères pour participer à cette formation?
Oui, il y a des critères parce que d'abord, comme je vous l'ai dit tantôt, beaucoup de ces femmes-là ne sont pas tout le temps disponibles. Donc, il fallait se rassurer de la disponibilité de ces femmes, de suivre la formation en alphabétisation et démontrer une motivation forte pour la formation. En même temps aussi, essayer qui veulent exercer des activités économiques, génératrices de revenus. Et enfin, c'était de leur sensibiliser. Parce que la sensibilisation, on a commencé même par ça. Quand on a fait les sensibilisations, certains sont allés réfléchir. Est-ce que ça peut aller avec leur engagement et tout ce que nous leur avons proposé autour de la formation? Donc c'est après réflexion là qu'il y a eu une sélection, voilà, des femmes pour prendre part à ces formations d'alphabétisation.
Et il a été dit tout à l'heure dans le magazine que les femmes déplacées à Mopti et Sinou, c'est-à-dire ici à Bamako, ont bénéficié de cette formation d'alphabétisation. Mais est-ce que d'autres localités sont concernées, comme le nord du pays?
Oui, il y a Bamako. D'ailleurs, tous les sites des personnes déplacées ont bénéficié de la formation, que ce soit à Djatoula, que ce soit à Nyamana, à Faladje, au centre Mabilé, à Grand Tigbou. Même les gens qui sont vers Kassela, voilà, donc ils ont tous bénéficié de ces formations. Bon, en même temps aussi, à l'intérieur, hein, il y a les gens de Ségou, voilà, qui ont bénéficié. Et dans la zone de Kaï aussi, il y a certains qui en ont bénéficié.
D'accord. Et qu'est-ce qui fait l'obstacle concernant les régions du Nord?
Bon, au fait, les ressources sont très limitées. Vous savez, cette initiative, d'abord, il faut convaincre les partenaires de la nécessité. Et cela prend un peu du temps. Mais en même temps aussi, vous savez, quand vous démarrez, vous initiez un projet comme ça, il faut qu'il ait un premier résultat et qu'on puisse prouver aux partenaires vraiment de la nécessité. Bon, c'est vrai, nous, notre ONG, d'autres ONG ont fait des formations dans ce sens. Bon, maintenant, il fallait attendre les résultats. Donc, les résultats qui sont là maintenant sont concluants. Rassure que quand les femmes, les personnes déplacées bénéficient de ces formations de renforcement des capacités en alphabétisation, du coup, vraiment, ça peut amener un changement positif dans leur vie. Et cela, il fallait quand même démontrer ça. Donc, c'est ce travail-là qui est d'abord parce qu'il fallait une étude, il fallait comprendre un peu les besoins spécifiques, si elles doivent être alphabétisées, en quoi elles ont besoin, ainsi de suite. Parce qu'on ne vient pas leur dire qu'on va vous donner tel programme comme ça.
D'accord, monsieur Diakité, merci pour ces premières réponses. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Et vous le savez, auditeurs, auditrices, cette émission, c'est également des rubriques. Et pour ce week-end, nous allons avec le modèle des réussites. Plusieurs zones du pays ont connu une dépopulation depuis 2012, surtout dans le nord et le centre du pays. Quelques-unes d'entre elles trouvent refuge en périphérie des grandes villes comme Bamako ainsi que les capitales régionales. Ces personnes déplacées à l'intérieur du pays s'efforcent de joindre les deux bouts pour répondre à leurs besoins quotidiens. Dans la rubrique dédiée au modèle des réussites, nous allons explorer ensemble le parcours de deux jeunes déplacés. L'un est chauffeur de moto-taxi, souvent dénommé ici à Bamako Télimani, tandis que l'autre est conducteur de tricycle à Mopti dans le centre du pays.
Noir d'un pantalon bleu et d'un bonnet rouge, Hamad Diallo est assis sur sa moto. Il est à la recherche des clients. Ces jeunes déplacés internes de la région de Bandiagara exercent ce métier depuis 5 ans. De 2020 jusqu'à 2023, Hamad Diallo peut gagner entre 10 000 et 12 500 dans la journée.
Au début, je gagnais beaucoup parce que les conducteurs n'étaient pas nombreux. Je pouvais gagner entre 10 000 et 12 500 après la recette journalière. Je dépense les 50% et j'économise les 50%.
Avec la multiplication des conducteurs moto-taxi, les chiffres d'affaires de Hama Diallo sont à la baisse ces deux dernières années. Marié, père de 3 enfants, il a du mal à trouver la recette journalière.
Aujourd'hui, les conducteurs des moto-taxis sont nombreux. Ils acceptent tous les prix. Certains parmi nous ne savent pas bien conduire. Il y a même des braqueurs parmi les conducteurs. Parfois, tu peux gagner beaucoup, mais il y a des jours, même pour trouver la recette journalière, c'est un problème.
Autre difficulté rencontrée par Hama Diallo, c'est la raquette en circulation. Pour lui, rassembler tous les papiers qui sont demandés par les autorités ne sont pas souvent faciles.
Nous avons des difficultés de réunir tous les papiers demandés par les autorités. Pour avoir certains papiers, tu payes 20 000 francs et il y a même des papiers à 25 000 francs. Le stationnement aussi, tu dois renouveler chaque mois. Des fois, pour obtenir le stationnement, tu peux faire plusieurs tours dans des commissariats.
À Mopti, où se trouve l'un des plus grands sites de déplacés, certains jeunes conduisent des motos tricycles. C'est le cas de Boubacar Gadjaga, un déplacé de Koro résident sur le site de déplacés de Sokoura. Il conduit le tricycle depuis des années. Grâce à ses transports en commun, il parvient à gagner sa vie.
Au début, je travaillais au marché. Ce que je gagnais était très peu. Après une longue réflexion, je me suis orienté vers la conduite des motos tricycles. Quand je commençais, j'étais apprenti. Après mon apprentissage, je commençais à conduire. Je gagne un peu. Entre 6h et midi, je peux gagner 3 000 ou 4 000 francs CFA.
Monsieur Boubacar Gadjaga exhorte les autres jeunes déplacés au travail. Il leur demande de ne pas toujours attendre les aides humanitaires.
Un reportage signé Oumar Ouigalo, de retour dans ce studio. Monsieur Diakité, quelle lecture vous faites de ce reportage?
En fait, vous savez, il y a ce qu'on appelle la résilience des personnes déplacées. Très généralement, cette résilience mérite une attention particulière pour deux raisons. D'abord, l'intégration des personnes déplacées et leur protection. La résilience est synonyme que déjà, ils quittent les milieux et ils se retrouvent dans un milieu où l'environnement n'est pas trop maîtrisé par eux. Donc, ils ont des difficultés d'entreprendre ou bien d'exercer des activités qui leur servent de source de revenus stables. Bon, quand ils commencent à exercer des activités, très généralement, il y a les barrières comme la maîtrise, les barrières de langue, d'où le sens de l'alphabétisation. Il y a aussi les difficultés d'intégration au sein de la communauté. Parce que si les cultures ne sont pas les mêmes, forcément, il y a certains actes souvent qui ne sont pas appropriés dans le nouveau environnement. Donc, ce qui commence, par exemple, quand on prend les conducteurs de Télimani, et il y en a beaucoup qui sont victimes de ces situations. Parce que tout simplement, ils viennent dans les grandes villes, ils ne connaissent pas le code de la route. En même temps aussi, tout ce qui est formalité administrative et autres, il y a des difficultés autour. Et enfin aussi, la communication. Pour rassurer quand même les populations, il y a tout ça. Pour favoriser cette résilience, il faut accompagner ces personnes déplacées dans l'apprentissage des métiers ou dans la qualification des métiers. Donc, il y en a plusieurs cas de modèles de réussite, mais qui nécessitent beaucoup d'attention, non seulement des communautés hôtes, mais aussi des partenaires parce que ces mesures d'accompagnement nécessitent des fonds.
Merci à vous, monsieur Diakité, et merci aux auditeurs et auditrices. Nous vous rappelons que vous suivez Studio Tamani à travers nos radios partenaires et sur nos différentes plateformes digitales. Aussi, vous pouvez réagir à toutes nos productions via notre page Facebook et notre compte X. Pour ceux qui viennent de nous capter, vous suivez l'émission humanitaire de Studio Tamani Faboudirène depuis la maison de la presse à Bamako. On se retourne de nouveau vers notre invité. Cette alphabétisation des femmes sur les sites déplacés, elle est en cours. La formation est en cours depuis quand?
La formation, on l'a commencé fin 2023-2024. Nous l'avons fait il y a deux temps, une première phase, 6 mois, après 3 mois. Mais le besoin est toujours là parce que, vous voyez, en moins de 6 mois, si on doit apprendre à lire, écrire, faire des calculs et avoir d'autres compétences, ce n'est pas évident. Bon, une chose est de savoir lire, écrire et faire des calculs, mais une chose aussi est de maîtriser la langue Molière, qui n'est pas tout le temps aussi facile. Pour quelqu'un qui parle peu, lui, il doit apprendre à Bambara, faire les calculs, des trucs comme ça. Souvent, ça nécessite du temps. Donc, c'est pourquoi les programmes sont séquencés de telle sorte que, en 6 mois, on leur donne les compétences de base. Bon, maintenant, 3 mois de formation de plus pour un niveau un peu avancé. Et après, il y a 3 mois de formation aussi pour un niveau maîtrise. Donc, là, la dernière session va vers un peu la transcription, la traduction, interprétation, ainsi de suite. Donc, tout ça, on ne peut pas le faire en 6 mois.
D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez eu un bilan des retours des femmes que vous avez eu à former dans le cadre de l'alphabétisation?
Oui, le bilan, vous voyez, quand vous rencontrez ces femmes-là en train de faire leurs calculs, pour les achats qu'elles veulent faire au marché, quand vous les rencontrez faire le calcul pour les recettes journalières, et quand vous les rencontrez aussi faire le calcul des dépenses et des recettes, et puis des femmes qui ne savaient ni lire ni écrire, qui n'avaient pour la première fois plus jamais utilisé un bic, un papier pour écrire quoi que ce soit, donc qui parviennent à lire et écrire et qui parviennent à faire tous ces calculs, déjà ça veut dire qu'il y a un premier bilan. Il y a l'autre aussi qui est aspect ça qu'on appelle les compétences de vie. Vous voyez, les femmes, au fait, quand on parle d'hygiène, nous, très généralement, l'hygiène, ce n'est pas seulement que la propreté corporelle, hein, n'est-ce pas? Il y a tout l'environnement qui est concerné. Et quand on parle d'assainissement, il y a tout l'environnement qui est concerné. Quand on parle de la santé maternelle et infantile, bon, au fait, elles ont quand même appris à se renforcer dans ces différents domaines et comprendre les enjeux autour. Et elles sensibilisent les autres qui n'ont pas pu bénéficier de ces formations pour un changement de comportement. Ils apprennent à être autonomes par la lecture et par l'écriture et par le calcul, surtout spécifiquement dans la gestion de leurs affaires. Parce que quand elles font les calculs, elles peuvent faire leurs dépenses, leurs recettes et leurs profits, perte ou bénéfice. En plus de ça, ce qui est important, il y a l'autre là qui l'a dit dans son reportage. Vous savez, quand, par exemple, les femmes qui on prend l'allaitement maternel, pendant l'alphabétisation, on les explique des compétences, des notions comme ça, les enjeux de l'allaitement maternel, comment vraiment allaiter ses enfants et pour combien de temps, ainsi de suite, et les bonnes pratiques d'allaitement, on les explique tout ça. Et en même temps aussi, la paix, c'est quoi la paix? La culture de la paix, la communication dans un contexte de crise, et quelles sont les attitudes à faire face, à adopter face à des personnes qui sont sceptiques, qui vous rejettent, ou ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des modules qu'on a développés pendant les formations que ces femmes-là ont appris à maîtriser.
D'accord, donc l'alphabétisation a toujours des avantages, surtout pour ces femmes qui s'intègrent dans un nouveau environnement. On va tout de suite avec l'invité de cette émission, l'invité artiste. Un tour dans la cité des 333 saints, on va précisément à Goundam, où notre correspondant Almoudou Mahamad Bangou est allé à la rencontre d'un jeune rappeur. On le laisse se présenter lui-même au micro de notre correspondant suivant ensemble.
Bonjour à tous les auditeurs. Moi, je m'appelle Amadou Hamma Abdrahman, mais mon nom de rappeur, c'est Talo Boss, et qui est le rappeur violent, le rappeur le plus influent de Normali. Je suis le roi du rap gundamien.
Le roi du rap gundamien, quand avez-vous entamé la musique?
Bon, je dirais que j'ai entamé la musique en 2010, entre 2009-2010, mais mon rap a pris son apogée. On m'a reconnu en tant que rappeur. C'est en 2015 et je fêterai bientôt mes 10 ans de carrière, Inch'Allah.
Qu'est-ce qui vous a poussé vers la musique?
Bon, je pense que la musique est un moyen de véhiculer un message. Donc, à travers la musique, c'est très facile de passer le message parce qu'on a tendance à se pencher vers un monde où c'est pas tout le monde qui lit les livres et autres, là, sinon je pouvais écrire parce que j'étais même animé par la passion de devenir un écrivain un jour, donc à bas âge. Mais maintenant, j'ai peut-être raté ça, mais je n'ai pas raté parce que j'utilise la musique là, pour passer mes messages.
Quel genre de musique faites-vous et quelles sont les thématiques que vous abordez dans vos chansons?
Bon, je dirais que je fais la musique rap, mais n'empêche, je touche les autres domaines. Je fais souvent de l'afro-trap, l'afro-beat, mandingue. Je fais même dancehall. Mais typiquement, je suis connu pour mon genre musical rap. Voilà. Et j'aborde beaucoup de thématiques. Je parle de la paix, je parle de l'amour, de l'amitié, de la réconciliation. Je dénonce aussi l'insécurité, la malgouvernance, la corruption. Et surtout, je fais de l'ego trip, c'est ça.
Aujourd'hui, comment se passe la musique à Gundam?
Bon, je dirais que la musique à Gundam, aujourd'hui, la musique se porte un peu mal, hein, parce qu'elle est mal vue par d'autres personnes, vu que, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui s'associent à la prise de drogue, de stupéfiants pour faire de la musique. Et je dirais que ceux-ci n'ont pas compris. On peut être inspiré sans pour autant prendre de stupéfiants. Donc, je pense qu'il y a d'autres jeunes qui ont beaucoup encouragé la délinquance juvénile. Donc, je profite de votre micro pour leur dire que voilà, tu peux être très, très bien inspiré sans être un délinquant ou bien consommer quelque chose d'autre. Donc, c'est ça qui a un peu freiné le land de la musique ici à Gundam.
Donc, c'est qui le rappeur pour vous?
Le rappeur, c'est celui qui est conscient d'abord. Il est conscient de ce qu'il fait. Il passe un message dans ses chansons. Souvent même les gens ne comprennent pas. Quand tu vois un rappeur faire de l'ego trip, par exemple, tu ne comprends pas ce qu'il veut dire. Mais en réalité, il y a Anguille Souroche, il y a une information qu'il veut passer.
Avez-vous des difficultés?
Les difficultés, oui. Parce que imagine, quand tu veux faire une production à Gundam, par exemple, tu es obligé de te déplacer, partir à Tombouctou, par exemple, à Direi pour faire tes chansons. Moi, je me déplace souvent à Bamako pour faire mes productions. Il faut voir les coûts. On n'a pas la qualité ici, donc il faut se déplacer pour faire de là. Il n'y a pas de studio. Non, à Gundam, il n'y a pas de studio. Peut-être un studio où on enregistre la voix seulement, voilà, mais ce n'est pas de la qualité. Mais avec le contexte sécuritaire, ce n'est pas facile.
Est-ce que la musique que vous faites répond à vos attentes?
Bon, peut-être oui, peut-être non. Moi, je ne pense pas que mes attentes à 50%, à 25%, oui, parce que je suis quand même respecté grâce à cette musique-là. Je suis respecté, là où je passe, tout le monde dit « Allô, allô, on me connaît, d'accord. » Mais est-ce que financièrement ça va? Je dirais non. Parce que à Gundam, par exemple, moi j'organise un concert par an à Gundam. Je ne pense pas qu'un concert à Gundam, tu connais Gundam. Et beaucoup de gens connaissent aussi Gundam. Un concert à Gundam, ça ne peut pas subvenir à tous tes besoins. Tu veux faire des productions, présentement je prépare un mixtape de 6 titres. Donc, il faut voir, même faire les 6 titres là, donc tu as besoin de l'argent pour le faire. Même si tu gères ton concert, tes concerts, tu ne peux pas. Parce que la rentabilité est trop, trop faible dans notre zone ici, quand tu organises un concert. Tu vois, c'est juste pour te dépanner 1-2 mois et c'est fini. Tu ne peux pas continuer sans appui.
Compte tenu du contexte sécuritaire, nous avons remarqué que Gundam accueille depuis fort longtemps jusqu'à ces jours des déplacés internes. Quelle lecture faites-vous de cette situation à Gundam?
C'est déplorable, c'est triste. Tu vois les enfants faufiler dans la rue, ils ne savent pas où aller. Hein, les parents, tout le monde. Ça fait très mal de quitter son village, laisser tout ce que tu as derrière et venir refaire une vie. Vraiment, c'est vraiment triste. C'est pour ça que je lance un appel aux autorités de vraiment aider ces gens-là, parce qu'ils vivent dans des situations très, 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 très compliquées ces jours-ci.
Est-ce que avez-vous un acapella pour nos auditeurs?
Je dirais la guerre destructrice, je l'appelle semence de paix. Avec des armes comme complices, elle ne prend que de l'ampleur. La peur, c'est sa devise, de gré ou de force, on nous divise. Père, mère, frères et sœurs, toute une famille, je vous avise. Pas besoin de la vivre pour savoir qu'elle fait du mal. Juste, look autour de toi, les villes qu'elle vide ne sont pas mal. L'histoire est dramatique, elle ne cible que l'Afrique. Jamais de solution, à mon avis, c'est cynique. Parlant de politique faite par trop de fanatiques, le Mali paye le prix, un repli stratégique. Le Nord, encore un de leurs torts, des braquages partout et vos interventions tardent. Je juge inadmissible d'un pays indivisible. Au Nord, on est victime, on braconte, tout le monde est cible. Tout le monde est cible. Hier, si Bakala, la FIA, ou si Dundi Bara Ania, danchiwar meinei maha borofosi meitamaha. C'est ça.
Merci beaucoup, Talo. Okay, merci. Nous arrivons au terme de cet entretien. Quels sont vos mots de la fin?
Mes mots de la fin, je vous remercie, vous. Je remercie le studio Tamani. Je remercie tous les auditeurs. Je remercie le technicien du studio Tamani pour bien passer le message. Hein. Et voilà, moi, ce que j'ai à dire, vous savez, comme 2025 est décrété l'année de la culture par les autorités de la transition, alors je lance un appel à tous les acteurs de la culture à nous aider, car le fond nous manque vraiment, sinon le talent y est.
La phrase que j'ai retenue, c'est que la guerre, on n'a pas besoin de la vivre pour savoir que ça fait mal. Monsieur Diakité, vous aimez la musique?
Oui, j'aime un peu la musique. C'est vrai que mon activité ne me permet pas de suivre régulièrement la musique, mais la musique traditionnelle et mandingue, surtout de Salifou Keita, voilà, la musique guinéenne, un peu le rap aussi, Master Sumi et autres là, voilà, que j'écoute. Mais des fois aussi, je l'écoute dans ma voiture.
D'accord. Ça fait du bien des fois quand même, hein, d'écouter de la musique.
C'est ça.
Et nous allons à présent partir avec la dernière rubrique de cette émission, le proverbe. Le savoir-être est le meilleur des savoirs. Balafané, homme de culture à Dioïla, nous donne plus d'explications.
Le savoir nager ou le savoir grimper ou encore le savoir monter à cheval sont certes des connaissances utiles. Mais le savoir-être est le meilleur des savoirs. En lecture laconique, c'est-à-dire courte, il s'agit d'être accroché à sa culture pour vivre heureux et rester fort. Comme on le dit dans un autre adage, une nation forte vit et se nourrit de sa culture, mais un État fort s'adosse à son armée.
Notre invité va également nous donner son avis sur ce proverbe. Monsieur Diakité, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, vous savez, quand on dit un homme est cultivé, ça veut dire qu'il y a un homme quand même qui a su développer cette capacité de cohabiter, d'interagir avec les autres. Et cela ne peut se passer sans le savoir-vivre. Il y a le savoir qu'on le répartit en trois temps, savoir-vivre, savoir-être et savoir-faire. Bon, tous ces savoirs-là nous renvoient vers quoi? C'est-à-dire, c'est mieux connaître soi et mieux connaître ce qu'on veut et savoir se projeter dans l'avenir. Donc, le savoir nécessite quand même un don de soi, c'est-à-dire se priver de plein de choses pour pouvoir quand même se cultiver, se priver plein de choses pour pouvoir s'intégrer, se priver plein de choses pour pouvoir se développer. Et tout ça ne peut pas se faire sans le savoir. Comme on le dit dans l'adage Mambara, ce don iridon, iridon de Yigonte.
On est presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire, votre mot de la fin sur l'alphabétisation des femmes déplacées?
En fait, d'abord, moi je souhaiterais que beaucoup de partenaires s'investissent dans ce projet d'accompagnement des femmes pour les alphabétiser. En même temps aussi, encourager les personnes déplacées et les communautés hautes de travailler sur la formation, surtout l'apprentissage des métiers techniques. Aujourd'hui, compte tenu des difficultés économiques et puis compte tenu de tout ce que le pays est en train de traverser, c'est seul le travail paye. Bon, maintenant, pour que les gens puissent travailler, il faut que les gens sachent exercer des choses. Donc, pour que les gens sachent exercer des choses, il faut qu'ils apprennent des métiers. À côté des métiers, on peut quand même aussi vraiment continuer à s'instruire à travers l'alphabétisation. À tout âge, à tout moment, on peut quand même apprendre. Parce que la leçon que j'ai beaucoup aimée de cette phase d'alphabétisation, c'est qu'il y avait des vieilles personnes de 50 et quelques, sinon 60 ans, qui disaient que vraiment, c'était pas possible pour elles d'apprendre. Mais au final, c'était elles qui étaient les plus motivées. Donc, même ne serait-ce que elles disent à leurs petits-enfants que « Ah, amena ni klichu, c'est même qu'à diande ou moi. »
Donc, apprendre, ça sert toujours à quelque chose.
Apprendre, ça sert toujours à quelque chose. J'étais émerveillé quand la vieille dame me disait ça, parce que déjà, elle... Et puis, vous voyez, avec le poids de l'âge, Auparavant, quand elle, au démarrage des formations, à moins de 30 minutes, 40 minutes, elle se mettait à s'endormir. Mais au finish, elle pouvait tenir 4 heures de temps sans somnoler et puis prenait note régulièrement. C'était vraiment fantastique pour dire qu'on peut vraiment, à tout âge, on peut apprendre. Et l'apprentissage aussi, vraiment, quand on veut, on peut.
Monsieur Diakité, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que Monsieur Moulibou Diakité est membre de la société civile et également responsable d'ONG. Ainsi se referme donc cette émission Faboudilène. Si vous ne l'avez pas suivie en intégralité, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes digitales de Studio Tamani. Merci de votre constante fidélité. Je suis Adama Haidara pour la présentation à la mise en onde. De Adjaratou Traoré. Merci à tous et bon début de semaine.